aujourd'hui deux invités pour nous parler des violences sexuelles et notamment d'une formation qui aura lieu très prochainement à Fort-Calquier au mois d'avril. On en parle dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. On quitte cette musique pour venir à quelque chose de peut-être un peu moins joyeux. Alors aujourd'hui, donc, je reçois Jacques Leloutre, médecin, addictologue, accompagné de Anne-Marie qui vient témoigner de violences subies, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, je vais vous demander de vous présenter plus en détail. Jacques Leloutre, donc, médecin addictologue, vous travaillez sur Digne et Manosque.
Alors, je travaille sur Digne, Manosque, Fort-Calquier, Sisteron, Riez. Donc, je fais partie d'une structure qu'on appelle l'ANXAPA, qui en fait prend en charge des personnes qui ont des problèmes d'addiction et qui sont chez elles, quoi. On fait des suivis ambulatoires, un peu comme les CMP pour la psychiatrie. Et on est une équipe, on est une quinzaine de personnes avec des infirmières, des psychologues, des éducateurs sociaux, et voilà. Et donc, moi, je me suis intéressé là aux violences sexuelles parce que on en trouve énormément parmi les gens qui ont des addictions. Et en fait, on se rend compte que c'est un sujet dont on parle pas assez, aussi bien au niveau de la prévention que de la prise en charge des victimes. Et l'idée, c'est d'essayer d'organiser un petit peu dans le département une prise en charge qui serait plus facile pour les victimes. Voilà.
À vos côtés, donc, Anne-Marie, c'est important pour vous de venir aujourd'hui à la radio pour témoigner ?
C'est pas spécifiquement pour témoigner, mais c'est pour faire connaître effectivement l'ampleur de l'impact sur la santé que peut avoir les répercussions des violences sexuelles. Donc pour moi, c'est important surtout que les gens prennent conscience qu'il faut essayer de faire le maximum de prévention et que quand dans un parcours de soins, quel qu'il soit, l'addictologie en particulier, mais aussi pour d'autres maladies physiologiques, on se rend compte que très souvent, derrière, quand on gratte un petit peu, ce sont des violences pas forcément que sexuelles, mais les violences subies dans l'enfance ont un impact 50 ans après. C'est le facteur déterminant de la santé sur la vie future de l'adulte, les violences sexuelles ou autres subies psychologiques de tout genre, subies dans l'enfance. Il y a une étude qui a été faite, qui a été menée de 1995 à 1997 aux États-Unis, les études ACE, qui ont mis en évidence donc le lien entre les traumatismes subis dans l'enfance et l'état de santé sur les adultes ensuite, plus de 50 ans après. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut développer des maladies psychologiques. On s'en doute souvent des dépressions, ça paraît assez évident. Mais ce qu'on ignore souvent aussi, c'est qu'il y a aussi des maladies physiologiques qui peuvent atteindre les gens, les adultes, après, par la suite. Ils peuvent développer des cancers, des maladies chroniques, respiratoires, toutes sortes des maladies endocrinologiques, avec des problèmes métaboliques, tout ça, de l'obésité, beaucoup aussi, et toutes les addictions, bien sûr, encore une fois. Et donc, malheureusement, on s'est aperçu que très souvent, les médecins ne savent pas faire le lien entre cette cause et cet effet. Et il y a une étude Ipsos aussi, par exemple, qui a été faite pour le compte de l'association Mémoire Traumatique en 2019, qui explique que ça peut réduire l'espérance de vie de 20 ans chez un adulte, et que malheureusement, 79% des médecins ne savent pas faire le lien entre les violences et l'état de santé actuel de leurs patients. Donc c'est pour essayer un petit peu. Moi, j'ai découvert l'association SVS qui va nous proposer Stop aux violences sexuelles, qui va nous proposer cette formation les 17 et 18 avril. J'ai découvert cette association parce que, justement, mon parcours de soins étant très compliqué, je me suis rendu compte que dans le département, j'arrivais pas à trouver quelqu'un capable de me prendre en charge de manière spécifique. Et donc, j'ai voulu m'investir un petit peu, donner un sens à mon histoire en m'investissant un petit peu dans la prévention et dans la sensibilisation des gens. Donc c'est pour ça que j'ai suivi une première fois la formation et que j'ai souhaité, avec quelques participants avec lesquels nous avons fait connaissance, nous avons souhaité renouveler l'expérience pour élargir un peu ce champ d'action.
Vous avez été victime dans l'enfance ?
Dans l'enfance, oui. À partir de l'âge de 10 ans, l'étude dont je vous parlais, effectivement, tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a à peu près... il y a aussi une synthèse du Conseil de l'Europe. Donc, c'est les chiffres de l'Europe qui datent de 2007. Il faut savoir qu'il y a à peu près un enfant sur cinq, c'est énorme, qui est victime de violences sexuelles au cours de son enfance. Et que la moyenne d'âge des premières agressions se situe très souvent en dessous de 10 ans. Ce qui était mon cas, moi j'ai commencé à être agressée à partir de l'âge, je ne me souviens pas exactement, de 8-9 ans à peu près. Donc un enfant sur 5, c'est vraiment énorme.
C'est énorme, ça, c'est sûr, ça fait froid dans le dos.
Pour compléter, oui. En fait, quand on parle d'agression sexuelle, on a toujours l'image d'une personne qui rentre tard le soir et qui se fait agresser. Dans la nuit, en fait, c'est vraiment exceptionnel. 95% c'est par des proches. Chez des mineurs, c'est 50% des actes incestueux. Et pour compléter là, ce que dit Anne-Marie, c'est ça, hein, il y a 80% des personnes qui ont eu des agressions sexuelles avaient moins de 18 ans. En gros, 50% avait moins de 11 ans ou 12 ans, et il y a 20% qui avaient moins de 6 ans, quoi. Donc c'est une notion qu'on a pas du tout. Voilà.
Donc ces formations, enfin, en tant qu'addictologue, donc l'addictologie, on rappelle, c'est l'alcool, mais pas forcément la drogue. Est-ce qu'on...
C'est tout... En fait... Une personne qui est en problème d'addiction, en fait, c'est une personne qui est en mal-être, qui est stressée et qui est mal dans sa vie. Et c'est une manière de réagir pour faire face à ça. Donc, y a des gens qui vont simplement faire des dépressions, d'autres qui vont faire des maladies sans doute psychosomatiques comme la fibromyalgie ou des maladies comme ça. Et certains qui se dirigent vers des produits pour s'apaiser. Et donc c'est vrai que sur la prise en charge d'une personne qui vient nous voir, évidemment, il y a un travail pour qu'elle diminue ses consommations, parce qu'en sens, en plus, si elle diminue, elle va reprendre confiance en elle et ça sera plus facile. Mais je veux dire, il y a au moins la moitié du travail, voire plus, qui est sur le fait qu'elle soit mieux... Dans sa vie et qu'elle ait moins de stress et moins de souffrance. Et donc ça, c'est assez typique, par exemple, pour quelqu'un qui a subi une agression sexuelle. Évidemment, tant qu'elle n'aura pas fait un parcours de soins sur son agression sexuelle, c'est assez illusoire qu'elle arrête son addiction et que de toute manière, si elle arrive à l'arrêter, elle va rester en souffrance et elle risque de rechuter quelques temps après, quoi.
Au niveau pourcentage dans le département, est-ce que c'est un département plus avec plus de d'addictions ou
Alors c'est toujours très difficile à dire. Non, je pense pas que ce soit un département qui soit particulier à ce niveau. Le pourcentage de gens qui ont des addictions, c'est toujours très difficile à dire parce que en gros, on considère que il y a à peu près 10% des gens qui en ont une qui consultent, quoi. Et parce que il y a de la honte, du déni, et que nous on dit toujours que quelqu'un qui a une addiction et qui franchit la porte de la structure, il a déjà fait la moitié du chemin, quoi. Voilà. Donc c'est toujours difficile d'évaluer, quoi.
Et c'est assez difficile et laborieux pour quitter une addiction. Est-ce qu'on y arrive ?
Oui, bien sûr. Le problème, c'est que c'est jamais totalement gagné, quoi. Donc, il faut rester vigilant toute sa vie. Mais bien sûr, nous, dans la structure, on a beaucoup, beaucoup de patients qui vont beaucoup mieux et qui arrêtent de leur suivi alors, en ayant fait des progrès énormes. Hein. Oui, bien sûr. Je trouve intéressant parce que, moi, quand je faisais des remplacements de médecine générale il y a des années, quelqu'un qui avait un problème d'alcool, j'avais toujours l'impression, que ça servait à rien de perdre son temps et qu'il le garderait toute sa vie. Et en fait, depuis que je travaille en addictologie, je me rends compte que c'est plutôt l'inverse, c'est que les gens qui consultent, la majorité vont beaucoup mieux après, quoi.
Alors, qu'est-ce qui peut les aider à, si on peut prendre quelques minutes pour savoir d'abord combien de temps il faut, est-ce que il faut s'y reprendre à plusieurs fois,
Je pense que chaque personne est différente et c'est difficile de faire des généralités.
Parce que souvent, ça met en souffrance la personne. Une fois qu'elle rentre, y a plein de choses qui remontent à la surface, évidemment, psychologiquement.
Bien sûr. Je pense que la première des choses, c'est de créer un lien avec la personne, parce que souvent... c'est des personnes qui sont... Boris Cyrulnik parle de traumatiser du lien. C'est des gens qui, dans l'enfance, n'ont pas eu d'affection, voire des maltraitances. Et donc, la première des choses, c'est que les gens se sentent en confiance et qu'ils sentent qu'on est disposé à les aider. Après, souvent, il y a aussi un travail pour leur redonner confiance. C'est souvent des gens qui ont beaucoup de culpabilité, de honte. Donc, l'idée, c'est d'essayer de... dans la vie de quelqu'un, il y a toujours des choses que les gens font bien ou où ils sont à l'aise, quoi, donc de leur redonner confiance. Et après, il y a un travail qui se fait avec le psychologue d'accompagnement où c'est difficile à expliquer. Il y a toujours quelque chose qui est un peu magique, de temps en temps, où les gens avancent pas, puis un jour il y a une phrase quelque chose qui se passe et là ils avancent, quoi. Donc c'est difficile à expliquer, mais c'est toujours un bon moment quand ça se passe.
Alors cette formation qui va avoir lieu, elle est adressée surtout pour qui? Est-ce que n'importe qui ou des professionnels ou des anciennes victimes? Pour qui cette formation et qu'est-ce qu'elle comprendra?
Alors, elle est ouverte à tout le monde. Donc, l'idée là, de l'organiser, c'était effectivement à deux niveaux. Bon, un niveau, essayer de se créer un réseau dans le 04 de soignants, mais aussi de personnes des forces de l'ordre, des magistrats, d'associations de défense de victimes, d'essayer de se créer un réseau pour que les gens se connaissent mieux et puissent communiquer entre eux quand ils sont embêtés par un patient qui a eu un problème d'agression sexuelle. Et sinon, il y a de l'information. Donc évidemment, donc pour toute personne qui a elle-même subi des agressions sexuelles, en sachant que c'est souvent assez difficile d'affronter ça quand on n'a pas déjà fait un parcours de soins et que on se rend compte que finalement il y a quand même potentiellement il y aurait beaucoup de personnes qui seraient intéressées puisqu'on disait qu'il y avait une personne sur cinq qui en avait subi, mais en pratique c'est tellement douloureux qu'il y a peu de gens qui s'inscrivent sauf ceux qui ont déjà fait leur parcours de soins. Par contre on espère qu'il y aura de l'entourage, quoi, des parents, des conjoints, des gens de la famille qui voient qu'ils ont quelqu'un de leur famille qui est très perturbé par ça et qui ont envie de se renseigner sur le sujet pour aider la personne.
Oui, est-ce que donc ça peut être ouvert aussi aux ex-bourreaux, on peut les appeler comme ça?
En pratique, je pense qu'il y en a très très peu qui viennent, mais vous avez raison parce que moi donc là, j'ai connu l'association là il y a quelques années. On n'en a pas discuté trop là, de cette association, la Stop aux violences sexuelles. Donc c'est une association qui est nationale et qui se décline au niveau départemental. Donc les auditeurs là peuvent chercher sur internet la Stop aux violences sexuelles. Il y a un site internet qui est pas mal fait. Et donc moi, j'ai connu l'association en allant assister à deux journées là comme celle qu'on organise là dans le Var là il y a quelques années. Et il y avait une personne qui était un ancien agresseur sexuel et qui est venu pour essayer de comprendre pourquoi il fonctionnait comme ça. Et je veux dire, c'est un moment qui était très émouvant parce que bon, le matin, les personnes qui organisaient ont fait prendre la parole aux personnes qui étaient présentes pour qu'elles se présentent. Donc il y avait quand même plusieurs personnes qui elles-mêmes avaient été agressées sexuellement. Et puis il y a eu cette personne qui a dit que lui, il était agresseur. Et à midi, 14 heures après la pause, en reprenant, il y a eu un moment qui était assez magique, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une des personnes, qui était une jeune personne, qui devait avoir 25 ans, qui avait été agressée sexuellement, qui a pris la parole en disant, ce matin, quand Jean-François a pris la parole, je me demandais ce qu'il faisait là et j'avais envie de lui rentrer dedans. Et là, je trouve que c'est super ce qu'il a fait et je le remercie, quoi. C'était un moment qui était très émouvant.
Et oui, c'est très courageux d'oser avouer son crime et de chercher aussi à comprendre.
Mais je pense que c'est assez rare, quoi. Il y a quand même souvent des sessions comme ça qui sont organisées. J'ai pas l'impression qu'il y ait souvent des auteurs qui viennent y assister.
Et par rapport aux victimes, on dit qu'elles peuvent reproduire aussi en étant adultes ces violences inconsciemment, devenir thérapeute à leur tour. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie?
Mais en fait, oui, c'est il faut bien nuancer. Hein, la totalité des victimes ne va pas forcément devenir agresseur, bien sûr. Mmh. Mais par contre, la majorité des agresseurs a malheureusement effectivement un passé de victime elle-même. Donc souvent, si les victimes ne sont pas prises en charge, pour essayer d'exorciser la souffrance dont parlait Jacques tout à l'heure, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement on tombe dans l'addiction, soit on tombe dans l'addiction, la boulimie, on essaye de... Les sports extrêmes aussi, on essaye de se mettre en danger pour essayer de retrouver une sensation de vie, en fait. Soit, quand cette souffrance est trop dure à supporter, on la reporte sur les autres, malheureusement, en reproduisant. Donc, ça démontre encore plus l'intérêt de se faire soigner avant de, le plus tôt possible, quand on est jeune, de façon à ne pas risquer de reproduire. D'ailleurs, l'association Stop aux violences sexuelles a une façon de présenter les violences sous forme d'épidémie. Ils ont leur stratégie de soins, je dirais, de mise en œuvre, de prévention et d'éradication des violences. Ils ont souvent tendance à comparer ça à une épidémie. Justement, on est contaminé en ayant été victime soi-même, et si on n'est pas pris en charge, si on n'est pas soigné, on risque de reproduire, et ça se propage de génération en génération dans les familles. On le constate ça aussi dans l'épigénétique, qui est un autre domaine d'étude. La plupart du temps, quand on a une famille où il y a un enfant qui est victime d'inceste, si on remonte dans les générations précédentes, il y en a également, oui. Donc c'est d'autant plus important de dépister le plus tôt possible les victimes, le plus jeune possible, pour arriver à les prendre en charge.
Pour compléter, pour qu'on soit bien clair, la majorité des victimes ne deviennent pas auteurs par la suite. Hein, c'est une toute petite fraction. Mais par contre, effectivement, dans les auteurs, c'est assez variable suivant les études, mais on considère qu'il y a entre 30 et 50% des auteurs qui ont même été victimes quand ils étaient enfants, quoi. Ouais.
Pour revenir à ces différentes possibilités de réaction de la victime, il y a évidemment ce choc. Est-ce que ça peut aussi mener à se couper de toute sensiblerie, sans sentimentalisme et faire... des personnes qui, justement, se sont blindées et du coup, peuvent faire souffrir sans être conscients.
Oui, bien sûr. C'est pas toujours facile à expliquer de manière simple, parce que c'est quand même assez complexe. Mais au niveau de la mémoire, en fait, dans le cerveau, il y a deux choses qui se passent. Donc, il y a un centre qu'on appelle l'amygdale, qui est la mémoire émotionnelle, et un centre qui s'appelle l'Hippocampe, qui est la mémoire qu'on arrive à expliquer, enfin, avec une date dont on peut parler, quoi. Donc, avec une date, un horaire, on arrive à mettre des mots dessus. Et en fait, quand les faits se passent, on les reçoit dans la mémoire émotionnelle, puis après, il y a un transfert qui se passe dans la mémoire classique. Et en fait, donc, pour bien comprendre, par exemple, chez les enfants, l'hippocampe, donc la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, quoi, qui est la mémoire classique, ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de souvenirs avant 3 ans. C'est aussi quelque chose qu'on perd chez les Alzheimer, où ils n'ont plus que la mémoire émotionnelle, quoi. Ils perdent la mémoire. Voilà. Et la mémoire émotionnelle, on la garde et on l'a, même si on n'a pas cette mémoire épisodique. Par exemple, pour prendre un exemple, chez un Alzheimer, il y avait des expériences qui avaient été faites il y a quelques années, je pense qu'on ne pourrait plus les faire maintenant, où il y avait un médecin qui se collait à une punaise dans la main et serrait la main à une personne qui avait un Alzheimer. Donc, bien sûr, ça faisait mal à la personne. Le lendemain, évidemment, la personne qui avait l'Alzheimer était incapable de souvenir de ce qui s'était passé. Mais par contre, quand le médecin lui tendait la main, il refusait de prendre la main. Mmh. Donc, il y avait une mémoire émotionnelle qui avait persisté. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dès qu'il y a un événement qui est extrêmement, extrêmement violent, donc ça peut être dans les attentats, par exemple au Bataclan, les épisodes de guerre, des agressions sexuelles ou des violences quand on est enfant, ce transfert ne s'effectue pas, quoi, il y a une espèce de court-circuit, et le transfert entre la mémoire émotionnelle et la mémoire épisodique ne s'effectue pas. Et donc, en fait, les gens revivent en permanence ce qui s'est passé de manière très très intense, quoi, hein. Donc c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et l'idée de la prise en charge, c'est d'accompagner les gens pour finir de digérer ce qui était resté bloqué et que ça passe dans la mémoire épisodique. Parce que, enfin, pour le traduire comme ça, si vous voulez, quand on vit, si on prend un événement qui est agréable, par exemple aller en concert, on le vit, donc on a les odeurs, la musique, l'ambiance, et le lendemain, quand on y pense, ça reste un souvenir agréable, mais on n'a plus les émotions du concert, quoi. Et là, ce qui se passe pour des événements extrêmement douloureux, c'est que ça reste bloqué sur mémoire émotionnelle. Donc en fait, les gens, quand il y a un bruit qui le rappelle, quand ils repassent un endroit, s'il y a quelqu'un qui court derrière eux, etc., ils revivent la chose émotionnellement sans pouvoir mettre des mots dessus, mais en étant très très mal, quoi. Et l'idée de la prise en charge, c'est d'arriver à finir ce transfert, que ça passe dans la mémoire. Donc ça reste un souvenir qui est douloureux, bien sûr, mais ils sont plus envahis émotionnellement quand ils y pensent. Et donc, pour revenir à ce que la question de départ, effectivement, sur ce court-circuit, après, il y a différentes stades. Et donc, il y a le stade qui est malheureusement très fréquent, c'est qu'il y a une amnésie complète, enfin, un peu comme pour l'Alzheimer, quoi, où ça arrive pas du tout dans la mémoire épisodique et les gens s'en souviennent pas du tout. C'est pour ça que c'est compliqué, même dans les chiffres qu'on donne, parce que il y a vraiment des gens qui ont une amnésie complète. Là, plus l'agression a été tôt et plus elle a été violente, plus il y a une amnésie. Alors, de temps en temps, ça revient des années d'après, puis vraisemblablement, il y a des gens qui ont une espèce de mal-être permanence, mais qui ne peuvent pas le rattacher à ça, quoi. Donc c'est encore plus difficile à prendre en charge. Donc, et l'autre solution pour moins souffrir, c'est de se couper de ses émotions. Donc c'est des gens qui sont devenus, qui peuvent par contre en parler de ce qui leur est arrivé, mais de manière très détachée, comme si c'est arrivé à quelqu'un d'autre, voire comme s'ils parlaient d'un accident domestique tout à fait banal. Et là, effectivement, c'est aussi compliqué sur la prise en charge parce qu'ils sont complètement coupés de leurs émotions. Ouais.
Et par rapport à ces victimes enfants, par exemple, donc il y a plusieurs cas de figure après pour s'en sortir. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une fatalité pour ces victimes de retomber sur des nouveaux bourreaux à l'âge adulte, dans des mariages avec justement de la violence qui revient.
Vous avez tout à fait raison, parce que les études montrent qu'il y a entre 70 et 80% des gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles qui en ont eu plusieurs. Donc il y a pratiquement pour 7 à 8 personnes sur 10 une répétition. Et qui s'explique là parce que, en fait, quand on fait face à un danger, très souvent il y a une sidération et on ne réagit pas. Et donc, quand il se retrouve confronté à une situation comme ça, en fait, la personne prend ça pour du consentement, alors qu'en fait, la personne est sidérée, voire coupée de ses émotions, ce qui explique effectivement qu'il y ait beaucoup de renouvellement d'agression par la suite.
Pour revenir à ce pourcentage aussi dramatique, c'est vrai que suivant les personnes avec qui on en parle, on vous dira que l'inceste existe depuis toujours et que, sauf que c'était gardé secret, même la famille souvent était au courant. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a plus parce que les gens parlent plus, mais ça, c'est aussi un soin qu'il faudrait faire pour les familles, quoi, qui pensent que c'est normal que le père ou l'oncle ou le grand-père ou les femmes aussi, puisque ça existe aussi, ouais. Les violences
faites par les femmes, oui, ouais. Ça existe, hein, bien sûr, mais c'est quand même, je crois que c'est 5% des violences, hein, ouais. C'est vraiment faible, mais c'est aussi très douloureux. Là, moi, je sais que j'ai souvenir d'avoir entendu une interview de Corneille, le chanteur, donc qui a eu toute sa famille décimée devant ses yeux là, lors du génocide au Rwanda, et qui lui-même, donc là, à l'époque, il avait 17 ans, mais à quelques années avant, il avait subi des violences sexuelles de la part de sa tante, là, à l'âge de 13 ans, et il expliquait que ça avait été plus douloureux pour lui, ces violences sexuelles, parce que quelque part, lui, il l'expliquait comme ça, il y avait participé, donc il se sentait un peu responsable, donc il avait honte de ça, alors que pour ses parents et sa famille, il n'y pouvait rien. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'avait marqué, parce que, il avait eu sa famille entière détruite devant ses yeux, enfin. Et pour lui, ce qui avait été le plus douloureux, c'était cette agression sexuelle. Voilà. Mais ceci dit, c'est 5% des agressions sexuelles, hein, faites par des femmes. C'est quand même assez rare.
Est-ce qu'on peut revenir sur le programme de ces formations ou...
Oui, bien sûr. Je
te laisse parler. Déjà, les inscriptions sont faites
Elles sont en cours. On peut encore s'inscrire.
C'est limité à combien de personnes?
C'est pas limité parce qu'on a une salle très grande. On espère qu'on va pas être embêté par la crise sanitaire. Là, pour le moment, ça devrait être possible en faisant des espaces entre les gens. Mais heureusement, on a une salle qui est très grande, donc ça devrait pas poser de problème.
Donc c'est 2 jours, le 17 et 18 avril, ça tombe
un week-end, oui. Samedi-dimanche.
Samedi-dimanche, à l'espace de la Grande Fontaine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver dans ces 2 jours? Des conférences, des exercices, comment ça va se dérouler?
Justement, donc on va reparler un petit peu de l'aspect de l'impact des violences, donc avec l'aspect dont on a déjà parlé, de cette sidération, de cette effraction psychique qui se produit sur la victime. Donc on va expliquer un petit peu le mécanisme, les conséquences physiques et psychiques et physiques que cela peut avoir. On va aborder aussi un petit peu les chiffres statistiques pour mettre en évidence l'ampleur du phénomène. On va aborder aussi, grâce à l'intervention de gendarmes et d'avocats, les aspects juridiques. Donc, rappeler que le viol est un crime, donc qu'il est à ce titre passible de 20 ans de réclusion criminelle. Les agressions sexuelles sans pénétration, qui elles sont donc considérées comme des atteintes sexuelles, sont actuellement passibles de 10 ans d'emprisonnement. C'est un délit, là, par contre, quand il n'y a pas de pénétration. On va évoquer donc un petit peu ces conséquences juridiques. Et après, bien sûr, on va quand même parler essentiellement du parcours de soins aussi, avec la possibilité de l'optimisme, quand même, pour finir. Donc, il est possible, effectivement, d'être pris en charge de manière correcte et d'être soigné. Donc, voilà, sur les 2 jours, on va donner des exemples, des témoignages, se livrer aussi à un petit exercice, si c'est possible, avec la crise, pour montrer, justement, le ressenti du corps. Mais voilà, donc c'est un programme qui est très complet, très vaste, qui s'ouvre encore une fois, Jacques l'a dit tout à l'heure, à tous les publics. Et c'est là où nous avions d'ailleurs une petite divergence d'opinion au départ avec Jacques, notamment, qui est lui, de son côté médecin, l'incitait à prendre en charge immédiatement les victimes. Donc il espérait effectivement qu'il y ait pas mal de victimes qui viennent s'informer, parce que justement c'est très important, il ne faut pas du tout qu'elles hésitent, les victimes, à venir s'informer sur les parcours de soins qui sont possibles. Mais moi je lui ai dit que de mon point de vue à moi, ce qui me semblait le plus important, c'était la prévention. Et dans la mesure où effectivement on a dans notre zone rurale très peu de soignants qui sont aptes à nous aider et aptes à détecter ce que je vous disais tout à l'heure, surtout dépister, surtout poser la question, est-ce que vous, quand systématiquement, quand on reçoit un patient, il faudrait que le médecin prenne l'habitude de demander dans son questionnaire de santé, vous avez été opéré de l'appendicite, oui, est-ce que vous avez subi des violences, quelles qu'elles soient, dans votre enfance? Il faudrait que les soignants prennent l'habitude de poser la question. Donc, dans leur routine, comme ça. Donc, moi, Jacques voulait plutôt toucher les patients. Et moi, je voulais surtout... les patients, oui. Et moi, je voulais surtout toucher les soignants pour qu'ils s'informent, qu'ils puissent mieux prendre en charge. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tous les gens qui travaillent à proximité, en présence d'enfants. Donc, tous les personnels de l'éducation nationale, les instits, les ATSEM qui donnent à manger aux enfants, les assistantes familiales, les éducateurs sportifs, de façon à pouvoir découvrir le tout petit changement d'attitude chez l'enfant qui peut laisser supposer qu'il s'est passé quelque chose et qui peut lui permettre d'ouvrir le dialogue. Ah bah tiens, aujourd'hui, t'as l'air un petit peu mal, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait une mauvaise journée? Voilà. Donc, en fait, ça s'ouvre vraiment à tout le monde. Et le programme est très explicite de ce point de vue-là. Et vraiment, il ne faut pas hésiter, quelle que soit notre motivation, à venir s'informer.
Alors, la prévention, d'accord, auprès des instituts, mais aussi auprès des enfants. En classe, peut-être.
Alors, pour moi, quand j'ai suivi la formation Les Bases il y a 2 ans, la première fois, c'était dans l'espoir de suivre, parce que l'association le propose aussi, de suivre aussi la formation suivante, qui est la prévention en milieu scolaire. Parce que moi, mon idée, c'était d'aller dans les classes, effectivement, pour discuter avec les enfants. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu le faire jusqu'à présent, mais on ne désespère pas avec Jacques de pouvoir le faire. Donc, effectivement, mais le préalable, c'est d'abord de suivre cette formation, cette première formation, Les Bases, qui brosse vraiment toutes les généralités dont il faut avoir connaissance avant de s'investir après dans d'autres formations. À savoir que l'association propose aussi, par exemple, des formations en périnatalité pour les sages-femmes, par exemple, qui veulent être mieux formées. Parce que malheureusement, quand tout à l'heure Jacques a évoqué l'amnésie traumatique qu'on peut avoir quand on a été victime, c'est-à-dire que quand on a été victime dans l'enfance, comme ça, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut occulter totalement le souvenir. Et souvent, ce souvenir ressurgit quand on est soi-même parent. Donc à la naissance d'un enfant, une maman, c'est là qu'elle va s'inquiéter pour son enfant. C'est ce qui m'est arrivé typiquement, hein, quand ma fille est née. Moi, ce que j'avais vécu, j'avais l'impression que c'était pas si grave que ça, que c'était un épisode de ma vie comme un autre. Mais par contre, quand j'ai fait un transfert sur ma fille, que je me suis dit que si elle, elle pouvait vivre la même chose, là, je trouverais ça très, très grave. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi qu'autour de la natalité, donc Jacques espère vraiment que dans les maternités, on ait beaucoup de personnes qui viennent se former. Donc pour faire de la prévention comme ça, savoir comment expliquer aux enfants, parce que moi ça a été mon gros problème de mettre en garde ma fille sans la traumatiser, sans lui faire peur non plus. Comment on explique aux enfants sans leur dire que le monde est vraiment dangereux, horrible et tout. Mettre en garde, mais sans effrayer non plus, c'est compliqué. Donc effectivement, l'association Stop aux violences sexuelles propose différentes formes de formation, dont la première est un passage obligé pour pouvoir accéder ensuite aux autres, autour de la prévention en milieu scolaire, autour de la périnatalité, pour les kinés aussi. Il faut savoir que c'est très important aussi de travailler sur le corps, parce que le corps a une mémoire, ce que disait Jacques tout à l'heure avec l'exemple de la...
De
la punaise dans la main. C'est, même si mentalement on ne se souvient pas, le corps, lui, il se souvient. Et donc les soins kinés, ostéo, massages sont très importants pour les victimes aussi. Donc vraiment, tous les soignants peuvent se spécialiser dans ce domaine-là. Et donc pour en revenir à la question que vous me posiez, oui, la prévention en milieu scolaire est très importante et j'espère vraiment qu'on pourra agir dans ce domaine-là.
Ouais, c'est vrai que comme toujours en France, je pense qu'on fait pas assez de prévention et enfin, ça coûte beaucoup moins à la société d'investir en prévention qu'en soins par la suite. Et je pense que sur la prévention, il y a des choses qui sont relativement simples, je pense, et qui marcheraient bien, quoi. C'est simplement dire aux enfants que leur corps leur appartient et que personne n'a le droit d'y toucher sans leur demander leur autorisation. Et que souvent, si quelqu'un le fait, il peut aller en prison, quoi. Et que ça soit simplement rien de dire ça à tous les enfants. Et puis au niveau de personnes qui sont en contact avec les enfants, simplement leur dire que un enfant qui très jeune parle de sexualité, fait des dessins de sexe, c'est très suspect. Et de manière enfin moins nette, mais un enfant qui va bien, enfin qui a des copains, qui a des bons résultats à l'école, qui a des activités, qui brutalement se renferme sur lui et son caractère change et tout, c'est aussi quelque chose où il faudrait lui poser quelques questions et essayer de trouver. Et ça, rien que ça, de faire passer ce message, donc avec toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants, donc les ACM, dans le primaire, les éducateurs sportifs, et puis ce qu'on disait, je pense que les sages-femmes ont un rôle qui est très très important, parce que par définition, elles voient toutes les femmes qui sont enceintes, et c'est aussi un moment où on peut faire passer des messages de manière simple, quoi.
Et puis tout ça, c'est assez complexe aussi, parce que par rapport à cet enfant qui est victime de violences sexuelles, il y a aussi cette part où il est très attaché au bourreau. Il y a beaucoup d'amour et on n'a pas envie que le papa soit en prison ou ait des problèmes, parce qu'on l'aime malgré tout. Et puis même, il peut y avoir... Enfin, j'ai entendu dire, moi j'en sais rien, hein, que l'enfant ou l'adolescent violé peut aussi ressentir du plaisir à certains moments, et c'est encore aussi, ça rajoute à la difficulté de guérir de ça.
Oui, alors, donc ça c'est toujours assez discuté. Il y a des gens qui vous diront que c'est pas du tout possible. Moi, je pense que c'est possible. Alors, enfin, je vais donner un exemple. J'avais discuté avec une personne qui était gendarme et qui était d'une brigade de protection des familles. Donc, l'essentiel, 100% de son temps était décliné là-dessus. Et elle avait une jeune personne là, qui s'était décidée à porter plainte à 38 ans, quoi. On a jusqu'à 38 ans pour le faire après en viol, là. Et donc, elle avait été violée pendant des années par son beau-père. Et donc il y avait des vidéos après qui avaient été retrouvées sur l'ordinateur, etc. Donc il y avait des vidéos où, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, elle était totalement coupée de ses émotions, c'est-à-dire que il y avait son beau-père qui était en train d'avoir un acte sexuel et elle était en train de jouer sur son portable, quoi. Donc je veux dire pour arrêter de souffrir. Mais une fois, Elle avait ressenti du plaisir parce que, c'est quelque chose qui est mécanique et que quand on stimule la zone, il peut déclencher du plaisir. Donc, ça avait été une grande surprise pour elle et une grande honte, évidemment. Et ce qui était quand même très paradoxal, c'est-à-dire que quand ils avaient interrogé l'auteur, donc ils font les policiers, font des interrogatoires évidemment séparés. Donc, il avait dit que c'était faux et que, il n'y avait jamais eu d'agression sexuelle, sauf une fois. Et la fois où il l'avait dit, c'était la fois où elle avait éprouvé du plaisir, quoi. Mmh. Donc, je veux dire, voilà. Mais donc, pour dire que c'est possible, mais je pense que ça reste vraiment exceptionnel. Mais je pense que ça complique encore plus les choses, quoi, hein, quand ça doit se passer, parce qu'enfin, en tout cas, pour cette personne, elle ressentait beaucoup, beaucoup de honte et de culpabilité d'avoir ressenti du plaisir.
De toute façon, on a coutume de dire, parmi les victimes et parmi les associations qui s'impliquent un petit peu dans cette cause, que le viol est le seul crime où c'est la victime qui se sent coupable et non pas l'agresseur. Parce que, quelles que soient les circonstances, effectivement, qu'on ait éprouvé du plaisir mécanique comme ça ou qu'on n'en ait pas éprouvé, vous parliez tout à l'heure du sentiment de culpabilité à faire condamner son parent quand il s'agit d'inceste. Quelles que soient les conditions, on se reproche de ne pas avoir été assez fort pour dire non, on a l'impression qu'on aurait pu a posteriori, comme ça, qu'on aurait dû se défendre. Donc, quelles que soient les circonstances, on éprouve toujours de la honte et de la culpabilité quand on a été victime.
C'est pour ça qu'il y a si peu de personnes qui portent plainte, quoi, parce qu'il y a vraiment deux niveaux, je crois. Il y a un premier niveau où les personnes souffrent de stress post-traumatique, là, comme on le disait, et un des signes du stress post-traumatique, c'est que on veut surtout pas en parler, on évite d'y penser, d'en reparler et tout, donc la personne est bloquée à ce niveau. Et après, si elle franchit ce stade, elle se retrouve avec la honte et donc les préjugés de la société, qui pendant, là c'est un peu en train de changer, mais pendant des années, on leur disait qu'elle l'avait cherché. Enfin, quelqu'un qui va aux assises, le rôle de l'avocat en face, ça va être de lui dire qu'elle a cherché ce qui était arrivé. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de honte et c'est encore un autre stade à franchir, là. Il y avait un manifeste, là, il y a quelques années, qui portait là sur ce sujet. Et le titre, c'était « La honte doit changer de camp », quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'auteur est pas honteux et c'est la victime qui est honteuse.
Et puis il y a aussi la question de pourquoi on porte plainte tant d'années après, pourquoi on a laissé faire. Enfin, on pourrait se dire qu'un enfant victime de viol, on peut comprendre qu'il ne bouge pas pendant quelques années, mais peut-être à 15-16 ans, on pourrait se dire là, il est quand même temps de se rebeller, si on peut dire.
Ouais, mais c'est ça. Enfin, ce que je vous dis, en premier stade où un mécanisme de défense, c'est de faire comme si ça n'avait pas existé et de pas en parler. Et après, je veux dire, il y a ce phénomène-là. Alors, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Là, les forces de l'ordre sont formées et tout. Mais moi, je vois dans mes patientes, j'ai souvent des exemples. Là, j'ai entre autres une patiente qui m'avait raconté, mais bon, ça remonte peut-être à une trentaine d'années. Je pense honnêtement que ça serait plus possible, des choses comme ça se passent. Mais bon, elle devait avoir 18-19 ans, donc elle avait subi une agression sexuelle. Elle était restée prostrée 3 jours chez elle, à se laver, à prendre des douches et des douches et des douches et des douches. Puis elle s'était décidée d'aller porter plainte. Et donc, le policier tapait son truc et puis lui dit « Vous êtes allé à l'hôpital faire un examen ?» Alors elle dit « Bah non, bah, il a pris le papier, il a dit « Bon, bah, c'est classement vertical, je peux rien faire, quoi. Mm-hmm. » Je veux dire, c'était 30 ans, elle m'en parlait, elle était complètement détruite encore comme ça. Et ce qui est difficile aussi, c'est je pense que les gens ont une sensibilité aussi qui ressorte aussi. Si quelqu'un est assez empathique, mais qu'il a une parole malheureuse, il retient cette parole-là. Moi, je sais que j'ai encore vu récemment, par contre, une jeune fille là, qui avait subi une agression sexuelle. Donc ensuite, elle est allée à l'hôpital pour avoir ce qu'on appelle des traitements post-exposition, c'est-à-dire en donnant un traitement pour qu'elle n'attrape pas le HIV-SIDA si la personne était contaminée. Et bon, évidemment, le médecin ou le pharmacien qui lui a donné, c'était le pharmacien qui lui a donné son traitement, et était pas au courant de ce qui s'était passé, quoi. Donc il lui a dit, les préservatifs, ça peut servir quand même, quoi. Et je veux dire, c'était pareil, elle m'en reparlait 2 ans ou 3 ans après, c'est quelque chose qui l'a détruit, quoi. Et voilà. Donc la personne aussi a ce truc, elle a une hypersensibilité qui fait que je pense que même si 90% de l'entretien se passe pas trop mal, si on a une parole qui est malheureuse, ça la détruit, quoi.
Anne-Marie, est-ce qu'on peut dire qu'on se sort de cette triste aventure? Et comment vous ressentez votre parcours aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez guéri de ces blessures?
Moi, personnellement, je pense qu'on n'en guérit jamais tout à fait, parce que c'est l'exemple est aussi souvent assimilé à une cicatrice corporelle. C'est-à-dire qu'on a une blessure sur le corps, une grosse entaille par exemple, on va garder la cicatrice, on la verra toujours, la cicatrice, mais au fil du temps et au fil des soins, elle sera moins douloureuse, elle démangera moins, on la verra, on la regardera. C'est ce que Jacques expliquait tout à l'heure avec la mémoire épisodique et chronologique, c'est-à-dire qu'on va garder le souvenir, mais on pourra le regarder sans qu'il soit douloureux comme il l'était avant. Après, les gens sont différents, la résilience n'est pas la même chez toutes les personnes, ça dépend aussi beaucoup de l'entourage, du soutien qu'on peut avoir, c'est très important. Et Boris Cyrulnik a beaucoup parlé de la résilience, justement. Et un même événement traumatique peut être vécu totalement différemment par deux personnes, suivant son entourage, suivant son passé, s'il a grandi dans un espace sécure ou autre. Mais oui, bien sûr, on peut arriver à guérir. Je vous dis, le terme est toujours un petit peu délicat pour moi. Mais oui, bien sûr, on peut arriver à dépasser sa souffrance et à vivre avec. Il faut garder l'espoir.
Et faire confiance aussi aux autres.
La confiance, c'est le point le plus difficile, je pense, à redonner aux gens. Mais ça s'apprend petit à petit, en tombant sur des belles personnes qui savent nous aider et tout. Mais encore une fois... C'est pas gagné, parce que ça dépend beaucoup des rencontres qu'on fait, de la qualité, de la prise en charge. Et moi, c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai souhaité qu'on organise cette formation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que je me suis rendu compte que ici et ailleurs aussi, puisque je suis dans la région depuis pas très longtemps, j'ai vécu sur Aix avant, dans beaucoup d'autres régions, mais malheureusement, ici, je me rends compte qu'on est très démunis. Il a fallu que je descende sur Aix de temps en temps, ou sur Marseille pour suivre des soins. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité organiser cette formation, de façon à sensibiliser au maximum les gens, en espérant qu'il y ait des soignants qui s'investissent dans ce parcours de soins si spécifique, oui.
Est-ce que les victimes collatérales sont aussi... parce que quand il se passe donc une telle violence au sein d'une famille, c'est toute la famille qui peut être impactée, la mère qui ne s'est pas rendue compte ou qui était complice. Comment ça se passe pour les mères qui peuvent avoir cette culpabilité de n'avoir rien vu?
Je sais pas, moi j'ai pas trop l'expérience, mais c'est souvent compliqué. Enfin, moi, dans ce que me disent mes patientes, une des choses qui est les plus douloureuses pour elles, souvent, c'est que quand elles en parlent à leurs parents, on les croit pas, ou on les accuse de l'avoir provoqué. Alors, bon, évidemment, moi, je vois celles qui vont mal. Ouais. Je pense ça se passe pas toujours comme ça, mais je pense que c'est sûrement un facteur qui fait que les personnes aillent mal après. Ce que je voulais vous dire pour compléter sur la prise en charge. Donc, c'est vrai que les agressions sexuelles, on considère que c'est parmi les choses qui provoquent le plus de stress post-traumatique. Je crois que c'est 70 ou 80%. Donc, ça veut dire que sans prise à charge, il y a seulement 20% des gens qui vont être résilients par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait une prise en charge. Là, il y a des, bon, différentes méthodes de prise en charge. Donc, entre autres, comme disait Anne-Marie tout à l'heure, les méthodes psychocorporelles, puisque la parole est bloquée, il y a souvent des choses qui peuvent passer par le corps. Mais il y a des techniques là qui marchent très bien, et je pense que c'est quelque chose qui est relativement récent, mais il y a de plus en plus de psychologues maintenant qui se forment. C'est une technique qu'on appelle l'EMDR. Donc en fait, c'est une technique qui a été mise au point avec les vétérans du Vietnam qui souffraient de stress post-traumatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les GI, il y a eu deux fois plus de décès par suicide, donc de gens qui avaient un stress post-traumatique, qu'au front, quoi. C'est-à-dire que c'est le fait qu'ils soient partis sur un conflit qui concernait pas plus que ça les USA, auxquels ils étaient très très peu impliqués, et que ça a été très très violent. Il y a eu énormément de stress post-traumatique, et donc il y a eu une personne qui s'appelle Francine Shapiro, qui est une psychologue américaine, qui a mis au point cette technique MDR, qui permet donc de désensibiliser le souvenir, et vraiment, de ce qu'on disait tout à l'heure, de le faire passer de la mémoire émotionnelle à la mémoire épisodique. Et je pense que c'est sûrement une des techniques qui est très efficace là pour les personnes qui ont subi des agressions sexuelles. Donc, je sais pas s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, il faut pas hésiter à aller voir des gens qui sont des psychologues formés en EMDR. Je pense que
donc c'est
quelque chose qui
avec les yeux, hein.
Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup, je pense.
Pour conclure, est-ce que vous avez des choses essentielles à rajouter dont on n'a pas parlé?
Moi, je repréciserai peut-être un petit peu pour que les auditeurs comprennent bien ce que disait Anne-Marie tout à l'heure sur l'ensemble des conséquences physiques, psychologiques. Donc effectivement, les études montrent que quelqu'un qui a subi une agression sexuelle, il va vivre en moyenne 20 ans de moins que quelqu'un qui n'en a pas reçu. Donc c'est vraiment énorme. Et bon, et donc évidemment, il y a les conséquences psychologiques. Bon, donc ça, on en a parlé. Mais c'est des gens donc qui gardent un stress en permanence sur des années. Et en fait, les hormones de stress font que si on est en stress aigu, la glycémie va monter pour pouvoir bien alimenter les muscles pour pouvoir s'enfuir. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et quand ça reste sur le plan chronique, ça entraîne des conséquences. Donc c'est effectivement souvent des gens qui font du diabète. Quand on est stressé, les études montrent que ça diminue l'immunité. Donc comme ça diminue l'immunité, je crois qu'il y a beaucoup plus de cancers parce que l'organisme se développe moins. Puis après, il y a des conduites à risque, c'est-à-dire que c'est des gens qui fument beaucoup. Donc il y a des addictions, donc quelqu'un qui fume, il fait plus de cancers également. Et donc, c'est tout cet ensemble de choses qui fait que il y a les conséquences psychologiques, mais il y a aussi beaucoup de conséquences physiques. Et à l'arrivée, donc il y a une espérance de vie de 20 ans de moins, ce qui est énorme, quoi.
Eh oui, on n'avait pas pensé à... C'est vrai que le stress fait de gros, gros dégâts sur la santé.
Dans les conduites à risque dont on a parlé et les conséquences, on a parlé des addictions, d'où on a oublié de mentionner l'addiction particulière qui est les troubles alimentaires. Il y a aussi beaucoup de boulimie, d'anorexie, et souvent les personnes en obésité sévère et morbide aussi sont concernées. Donc l'alimentation est aussi très souvent déréglée, comme tout le reste du métabolisme dont Jacques vient de parler.
Oui, donc ça, c'est... Enfin, on l'explique sur le plan psychologique en pensant que c'est pour mettre une barrière. Les personnes ont plus envie d'être séduisante, donc prennent du poids, etc. Ça, on le voit très bien aussi sur des photos. Je sais qu'il y avait des études qui avaient été faites où ils reprenaient les photos des enfants, et à partir du moment où il y avait les agressions sexuelles, la personne commençait à prendre du poids. En addicto, là, on suit les troubles du comportement alimentaire. On considère qu'anorexie ou boulimie, il y a une personne sur deux qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ont subi des agressions sexuelles. Donc c'est énorme.
Bon, c'est pas réjouissant tout ça, mais il y a moyen de s'en sortir. Pour cette formation donc, qui a lieu les 17 et 18 avril 2021 à l'espace culturel La Bonne Fontaine, il y a plusieurs intervenants. Je vois Simone Sabatier, c'est comme ça qu'on dit ?
Simone Sabatier, donc, qui est en fait responsable au niveau national des formations. Donc, c'est une psychologue qui fait du psychocorporel et du travail généalogique, et bon, qui est donc un peu le lien... entre toutes les formations qui a lieu sur tout le territoire en France. Donc, voilà.
Donc il y aura vous aussi, Jacques Leloutre, médecin addictologue, Hélène Sautriot,
voilà,
sage-femme.
Qui est sage-femme sur Digne en libéral. Voilà. Donc moi, je ferai la partie médicale et elle fera la partie qui est plus spécifique là, sur la grossesse et la gynéco. Voilà, et puis je pense que, peut-être pour finir, quand même ce message que... Donc 80% des personnes qui ont subi des agressions sexuelles font des stress post-traumatiques, mais qu'avec une prise en charge, les gens vont beaucoup mieux. Donc voilà, s'il y a des auditeurs, auditrices qui sont dans cette situation, je pense que vraiment il faut qu'ils fassent l'effort de mettre en route une prise en charge. Leur vie peut en être changée.
Merci Jacques Leloutre, merci Anne-Marie pour vos précieux témoignages. Et puis, donc, rendez-vous. Et il suffit d'aller sur le site Stop aux violences sexuelles pour s'inscrire. Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Merci beaucoup. Et puis, on retrouvera cette émission en ligne sur notre site Fréquence Pistrale et on essaiera de la rediffuser de nombreuses fois.
Merci.
Merci à
vous.
Merci à vous. Au revoir.